Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour. Je savais pas comment toquer.
Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir.
Ressemblez à mes parents ? Ah non, pas du tout.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Moulinex, libère la femme, libère la femme, libère la femme.
Bah, qui on va fréquenter ? Les grands-mères ?
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse et aujourd'hui, nous allons chez Jacqueline.
J'étais comme tout le monde, si vous voulez. Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui devaient s'amuser. Moi, je ne sais pas ce que c'est que s'être amusé. Bon, ben, installez-vous. Est-ce que le tabac vous gêne ?
Oui. Pas du tout.
Héloïse a rencontré Jacqueline dans sa maison de Vierzon. Assise dans la cuisine, une cigarette à la bouche et la fenêtre ouverte sur le jardin pour entendre chanter les oiseaux, elle a commencé à lui parler de sa vie. Jacqueline est fière et belle. Mais elle est surtout forte et l'a toujours été au fil des épreuves qui ont jalonné sa vie.
J'ai acheté ça. Il est dans cette boîte-là, mais ce n'est pas ce thé-là. C'est celui-ci. Yes. Bon, j'avais un cendrier. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dû le traîner, je ne sais pas où. Je suis née donc en 1934, ce qui explique donc que j'aurai 85 ans cette année. Je suis née à Mézières-Charleville, dans les Ardennes. Mais je n'y ai pas vécu parce que quand j'ai eu 3 ans, mes parents ont déménagé, sont venus s'installer dans le Berry. Ils sont venus à Bourges. Alors mes premiers souvenirs, comment vous dire ? Alors c'était une époque, si vous voulez, où les parents avaient une grande liberté vis-à-vis des enfants. Je ne dis pas que les enfants gênaient, mais c'était quand même... si vous voulez, l'autorité parentale qui était la plus importante à l'époque. Donc, moi je me souviens, on allait à l'école, si on faisait une bêtise, on avait volontiers une fessée ou une gifle. Mais moi je me souviens qu'on causait avec les petites copines d'école primaire, oui, ben j'ai eu une raclée hier, vous voyez le genre, parce que les parents, ben, en plus, les parents étaient très pris, parce que les femmes, bon, il n'y avait pas de machine à laver, pas de machine pour la vaisselle. La femme, elle avait beaucoup de travail. Hein. Le mari, lui, en général, il était travaillé aussi beaucoup, ce qui fait que l'enfant, il ne fallait pas qu'il soit gênant dans la famille, il fallait qu'il se tienne tranquille. Hein. Alors, et beaucoup aidait. Parce que je me souviens que les jeudis, qui étaient les jours de congé d'école, les jeudis, c'était le jour des poussières. Alors, comme ma mère ne devait pas aimer ça, j'avais droit au chiffon, au balai, et je faisais la salle à manger et les chambres. Enfin, comme je pouvais, mais disons que j'avais déjà au moins une dizaine d'années. Hein. Mais c'était, si vous voulez, ça, pour un enfant, j'avais l'impression que j'aurais eu envie de jouer, mais on trouvait toujours quelque chose à faire pour m'empêcher de jouer. Ou, viens aider, viens promener ton petit frère, viens, vous voyez. Il y avait toujours ce sentiment qu'il fallait faire quelque chose, qu'il ne fallait pas être inutile. Hein. Ouais.
Et vous avez combien de frères et sœurs ?
Alors, j'ai 2 frères. J'ai un frère qui était très proche de moi, qui habite à 50 km d'ici. Et j'ai eu un autre frère qui avait 9 ans de moins que moi. Mais avec celui-là, j'ai eu peu d'attaches. Et même c'est un petit frère qui m'a donné... je le garde souvent, va le promener, va ceci, surveille-le, fais attention. Alors... c'était une gêne pour moi. Je ne peux pas dire que c'était un petit frère adoré, pas du tout, non. Puis alors, il était un peu vicieux, parce que si par hasard, quand j'étais plus grande, mettons, on sortait avec un garçon. Si tu me fais pas ça, je dirai à maman que t'es sorti avec quelqu'un. Vous voyez, c'était un petit filou, hein.
Et du coup, vous êtes allé à l'école dès...
Je suis allé à l'école maternelle. Et je me souviens que je devais être extrêmement timide parce que je portais déjà des lunettes à cette époque-là. Et je me souviens d'une chose, mais une précise, c'est qu'un gamin m'avait volé mes lunettes pour me le jeter dans le seau à charbon. Vous savez, on avait un gros poêle au milieu des classes. Il n'y avait pas le chauffage comme aujourd'hui. Et il m'avait jeté mes lunettes dans le seau à charbon et je pleurais comme une madeleine.
Et l'école, c'était bien? Vous aimiez ça?
J'aimais bien l'école, oui, ça me convenait, tout ce qui était... J'aimais bien le calcul, j'aimais bien les dictées, j'aimais bien tout. Ça, je peux dire que non, l'école me plaisait bien. Oui, oui.
Et vos parents, ils étaient amoureux?
Je pense qu'ils s'aimaient bien, mais je peux pas dire... En tant qu'enfant, je peux pas dire si c'était le grand amour ou pas. C'était plutôt des gens un peu secs, hein. Ma mère n'était pas très maternelle, d'ailleurs. Elle était plutôt du genre à « tu m'écoutes, tu obéis, tu fais ça », vous voyez, c'était... Et puis, le grand reproche que je lui faisais, que je lui fais toujours aujourd'hui, c'est que on faisait des bêtises, comme tous les enfants. Mais alors, au lieu de nous fâcher tout de suite, puis ça s'arrête là... Quand mon père arrivait, elle rapportait immédiatement tout ce qui se passait pour qu'on soit à nouveau fessé ou fâché. Ou... Alors ça, j'ai jamais compris. Je trouve que c'est pas... Ça me paraissait... Enfin, aujourd'hui, je dirais le mot indigne que je connaissais pas à l'époque. Mais... Non, c'était des parents sévères. Je vais pas dire que l'atmosphère était pas une atmosphère agréable, mais c'était pas joyeux, si vous voulez. C'était plutôt, bon, ben, le travail, les discussions concernant les chantiers. Mon père revenait, fallait faire les devis. Il y avait toujours le travail et puis la mère, la lessive, les vaisselles, la cuisine. Vous voyez, c'était, on parlait de boulot. Bon. Et puis nous, enfants, bon, ben, quand on revenait de l'école, c'était fait tes devoirs. Après, c'était viens m'aider pour faire ci, viens tenir ça, viens. Je me souviens qu'on habitait, à ce moment-là, on habitait dans Bourges. Il y avait une courette, et au fond de cette cour, il y avait un bâtiment dont la partie qui faisait le bout de la courette, c'était des grosses planches, très écartées l'une de l'autre, et par les interstices, je voyais une petite copine qui savait habiter derrière. Et elle avait. Elle était très gâtée, je me souviens qu'elle avait un service, ça je le revois d'ici, elle avait un service en porcelaine pour poupée, et puis sa maman lui avait installé un petit endroit où il y avait des petites chaises, et puis on jouait à la poupée comme si vraiment on lui faisait la cuisine et tout. Alors, quand maman ne me voyait pas, je filais en vitesse, je faisais le tour pour aller, mais ma mère, ça, je savais très bien que j'étais de l'autre côté, alors ça ne durait pas longtemps, hein. Au bout d'un quart d'heure, j'entendais « Liline !» par entre les, comme je faisais moi, Liline, viens m'aider. Alors Liline venait aider. Non, je trouve pas que j'ai eu une jeunesse joyeuse. Ce qui m'a gâché une grande partie de ma jeunesse, même il a fallu que j'arrive à plus de 20 ans pour que ça cesse un peu, c'est que j'étais rousse poil de carotte. Mais poil de carotte. Quand je vous dis poil de carotte, c'est vraiment la poil de carotte. Alors, à cette époque-là, les roux, c'était mal vu. C'était « Ah, la rouquine !» Et puis, poil de carotte. Et puis alors, ma mère ne voulait pas du tout qu'on touche à mes cheveux. Et puis, par malheur, quand il y avait des clientes qui venaient, « Oh, la belle chevelure qu'elle a, cette petite, je les aurais bouffées. Hein, » parce que vraiment, ça me... Alors, j'avais... Comme il n'était entretenu que parce qu'on me lavait la tête. Mais sinon... Jamais chez le coiffeur, jamais les couper, rien. Ce qui fait que je suis arrivé à un volume. Je ne sais pas si vous voyez là, ce personnage américain là, qu'on voyait avec une grosse tête pleine de cheveux noirs. Bon, et ben c'était ça, en roue. Alors,
bouclé.
Tout frisé, crépu, serré. Oh, puis alors, quand elle me lavait la tête, qu'elle voulait me démêler, je hurlais tellement ça me faisait mal parce que c'était crépu, crépu. Hein. Ah, je ne peux pas vous dire. Et alors, d'être moqué par... Pas toute petite, je me rappelle pas de ça, mais dès que j'ai eu 7-8 ans à l'école primaire, et puis alors j'ai eu une époque où j'avais des anglaises. Alors les gamins me tiraient dessus, puis ils disaient tire le boudin et je ne sais plus quoi. Ils me tiraient les anglaises comme ça, vous savez, comme on tire un pied de vache. Hein. Ah, ça, je peux dire que j'ai été malheureuse. Puis après, même quand j'ai été au lycée, c'était pareil. C'était toujours la moquerie pour les cheveux roux, la poêle de carotte. Vraiment, c'était... Et si, je crois que si on m'avait... Même en la couleur, on n'allait pas me teindre à l'âge de 12 ans, mais on m'aurait coupé les cheveux pour amoindrir tout ce volume. Mais là, c'était... Ah non, ça m'a gâché une partie de ma vie. Alors, dès que j'ai été en âge, quand je suis sortie de l'école normale, quand on travaille, on gagne sa vie, même si on ne gagne pas. Je me suis tout de suite fait teindre.
Hein. Ah oui. Et là, vous êtes teinte ?
Ah oui, toujours.
Lorsque Jacqueline m'a dit que son enfance avait été difficile, j'ai hoché de la tête. C'est vrai que ça n'avait pas l'air tout rose, mais je ne pensais pas qu'une chevelure pouvait être une telle source de souffrance. Pendant un moment, j'ai cru boire un thé avec une jolie rouquine de 6 ans. Puis, le discours de Jacqueline m'a rattrapée et nous sommes repartis dans l'histoire de sa vie.
Et votre maison, elle était comment ? Vous dormiez tous les trois dans la même chambre ?
Ah, ça, c'était affreux. Parce qu'il y avait une chambre pour mes parents et une chambre pour nous. Alors, s'il y avait eu au moins un paravent ou quelque chose, mais vous imaginez une gamine de 13 ans, à certains moments du mois, alors on éteignait la lumière, mes frères se couchaient, puis c'était dur. Hein. Enfin bon, là, puis après, il y a eu la guerre, hein, évidemment. Oui.
Et la guerre, vous vous en souvenez ?
Pas. Je m'en souviens plutôt comme... comment vous dire ? Comme des événements qui étaient un petit peu plutôt réjouissants. Parce qu'on entendait par exemple les sirènes. Bon, on savait qu'il y avait une alerte, et du moment qu'il y avait une alerte, on savait qu'on allait, à ce moment-là, les gens du secteur où on habitait, le maire habitait pas très loin, il avait une très belle grande maison et une grande cave. Alors on se retrouvait avec beaucoup de gens dans la cave et d'autres gamins. Alors pour nous, c'était l'occasion de s'amuser, de faire un peu ce qu'on voulait. Alors c'était plutôt réjouissant, vous voyez. Moi, je me rappelle qu'on était... Mes parents... Mon père était entrepreneur de plomberie, chauffage sanitaire, voilà. Alors, on avait un magasin avec une grande vitrine, un magasin dans lequel il y avait des lavabos, des baignoires, bon. Et puis, il y avait un grand rideau et... Ma mère nous baissait le rideau, mais juste pour que ça arrive à la limite de nos yeux, et on regardait passer les Allemands, on regardait passer. Ça nous distrayait, c'était pas pour nous le... Bon, puis de temps en temps, je me rappelle avoir entendu ma mère dire « Tiens, madame Intel qui était sortie, elle s'est fait tuer sur le pont. » Alors, on se disait « Bon, ben, y a des choses affreuses, mais pour nous, j'avais pas notion de ce que pouvait être la guerre. Hein. » Non, pas du tout. Par contre... À la suite, quand la guerre a été finie, parce qu'on a quand même été en manque de beaucoup de choses, dans la nourriture, tout ça, et comme mon père travaillait, si vous voulez, pour des... Il y avait des gens qui étaient prisonniers, et il y avait des fermiers qui venaient demander à ce qu'on fasse des boîtes en conserve, et à mon père de les souder pour pouvoir envoyer ça aux prisonniers. Alors évidemment, comme c'était des gens de ferme, ils avaient du beurre, du lait, des œufs. Alors mon père disait toujours, moi je veux bien, mais il faut que j'ai du zinc pour pouvoir faire ça. Bon, alors en compensation, les gens payaient, mais ils apportaient une douzaine d'œufs. D'autres apportaient des fromages blancs, vous voyez. Ce qui fait qu'on n'a pas franchement manqué du temps de la guerre. Puis on avait des tickets pour acheter de la viande, pour aller au pain et tout ça. Hein. Oui, enfin c'était... On vivait comme ça, donc comme on ne connaissait rien d'autre, ça nous paraissait la vie de tous les jours, en quelque sorte. Hein.
Et puis après, il y a eu la fin de la guerre, j'imagine que là, ça devait être un peu différent. En plus, vous aviez 11 ans.
Oui, voilà. Ouais. Alors là, c'était un peu... Parce qu'on a eu l'impression d'une explosion de joie, vous voyez. Et je me rappelle qu'on avait vu passer des soldats, en fait, je crois que c'était les Américains, qui défilaient dans la rue... Et puis ma mère nous avait dit, ça y est, maintenant la guerre est finie. Donc on voyait comme si d'un seul coup tout allait être transformé, ce qui n'a pas été le cas, parce qu'il a fallu quand même un certain temps avant que tout redevienne comme avant. Hein. Alors on était obligé, compte tenu que mon père quand même, c'était un homme acharné au travail. Hein. Ça je peux pas dire, je l'ai vu épuisé, je l'ai vu avec mal aux reins, avec une ceinture autour des reins quand même travailler. Alors on aidait. on partait avec la brouette, avec mon frère, et puis on allait au... C'était pas... Comment vous direz, il y avait peut-être 500 mètres. Alors on partait au marais, puis on allait effeuiller les... cueillir les haricots verts, on allait... Enfin, faire tout ce qu'il y avait à faire, ramasser les fraises, enfin, des choses qui... On a beaucoup, beaucoup aidé. Hein. On peut dire... Alors, c'était quand même une chose utile... Parce que quand on s'est trouvé plus âgé, bon, ben, y a des gens qui, ne faisant rien de leurs mains, sont... Tandis que là, nous, on était vraiment habitués à tout ça. Moi, j'ai jamais eu de problème après dans la vie. Hein. Tout ce qu'on apprend, même si c'est à contre-cœur, ça rend souvent service par la suite.
Hein. Et la première fois que vous avez eu vos règles, vous en aviez déjà parlé avec votre maman ou c'était une surprise ?
Jamais. Elle ne m'en avait pas parlé. Et comme à l'époque, la maison qu'on habitait, il n'y avait pas de WC, pas de salle de bain. Il y avait d'ailleurs beaucoup de maisons qui étaient comme ça à l'époque. Hein. On se lavait sur le lavabo, sur l'évier de la cuisine. Bon. Et c'est un jour, en allant aux toilettes dehors, je me souviens, on avait des WC extérieurs qui avaient simplement un trou. Et quand on était au-dessus, on sentait comme de l'air frais qui vous arrivait. Ça fait ça, hein, bon. Et un jour, bon, ben, j'ai découvert que je saignais, alors je suis rentré en hurlant à la maison, en disant à ma mère, puis elle me dit, mais non, c'est que tu deviens une grande fille, etc. Mais j'aurais pu être prévenue avant, hein, mais je vous dis, elle était pas sensible à tous les problèmes de la vie, elle n'était pas maternelle, non, c'était... On vivait comme ça, c'était comme si les choses devaient nous tomber sous le sens, sans qu'on soit prévenu, quoi. Mmh. Puis vous voyez par exemple les anniversaires. Moi je me rappelle, j'avais des petites camarades à l'école qui disaient on m'a fêté mes 10 ans, on m'a fêté mes 8 ans. Bon, moi j'ai jamais su ce que c'était que d'avoir un anniversaire. Le jour où j'avais mon anniversaire, ma mère dit ah ben tiens, aujourd'hui t'as tel âge. Mais c'était tout, ça s'arrêtait là. Hein. Mon père avait acheté cette plomberie. À quelqu'un qui était vieux et malade, qui habitait à côté de chez nous. Et cette dame, la dame de ce monsieur, était couturière. Et je me souviens qu'un Noël, elle m'a fait venir chez elle, elle m'avait fait un lit de poupée, ces petits lits en fer forgé blanc avec, vous savez, et je revois un beau tissu blanc et bleu avec des fleurs et tout, mais j'avais pas de poupée. Alors elle m'avait fait le lit, il y avait un traversin, des petits draps, alors c'était très très joli, ça m'avait paru un cadeau royal, mais me manquait la poupée pour mettre dedans.
Vous n'avez jamais eu de poupée ?
Oh, j'ai dû en avoir, mais j'en ai pas de souvenir. J'ai dû en avoir, c'est possible. Mais j'ai pas de souvenir ni de nounours, ni de jouets. Hein, parce que je me souviens qu'on jouait avec le panier à salade de mes parents. Puisqu'un jour, ma mère le cherchait, on l'avait laissé sous la table, on avait dû jouer avec mon frère, je pense qu'on avait mis dedans pour faire quelque chose. Enfin bon, on jouait avec ce qu'on trouvait.
Et du coup, vous avez fait tout votre collège, lycée, ici
J'ai fait à Bourges, donc j'étais d'abord au lycée. Au bac, vous savez, il y a des options, à l'époque on avait des options. Alors c'était musique avec gymnastique ou bien dessin avec couture. Alors j'aimais pas la couture, j'aimais pas la gymnastique, mais... La musique ou le dessin, alors une année j'ai pris. La première année j'ai pris, j'ai pris une année dessin, une année couture. Mon prof de dessin était venu me voir à la sortie. Il me dit, vous savez que vous avez eu 19, alors comme ça comptait la moitié, ça donnait 4,5 points. Mais enfin, quand on n'est pas trop bon en maths, ça peut rendre service, donc il m'avait dit ça. Et puis, la directrice de l'école normale avait fait venir mes parents en disant, bon, ben, vous savez, là, des dons, on pourrait l'envoyer à l'école... Je ne me rappelle plus comment s'appelait cette école. À Paris, pour faire des études poussées en dessin. Et puis moi, je me voyais déjà faire des dessins dans la couture. Je me voyais dans le stylisme. Où est-ce que j'avais la tête? Et puis mes parents ont dit, non, c'est hors de question. Elle est à l'école normale. Ils ne me voyaient pas partir à Paris. Déjà que pour eux, Paris, c'était... Alors donc... Il fallait passer le concours d'école normale, mais le lycée ne préparait pas. Il fallait aller dans un collège qui montait quand même jusqu'à la seconde, mais on passait pas le bac. Hein. Donc, j'ai été retiré du lycée pour aller dans ce collège, mais qui était à l'autre bout de la ville. Alors là, j'avais 2 km à faire, à bicyclette, avec un vieux vélo moche et abîmé. Et pour présenter l'école normale.
Et c'est quoi l'école normale ?
Eh bien, l'école normale, c'était l'école qui présentait, où on préparait pour être institutrice, quoi.
D'accord. Voilà.
Alors, à l'école normale, on fait 4 ans.
Là, entre vous êtes au collège, à Bourges, etc., et vous allez dans l'école normale, il y a un moment où vous vous êtes dit « Ah, j'ai envie d'être instite ?»
Non, c'est-à-dire que ma mère m'avait posé cette question, je pense que... elle voyait que j'aimais bien l'école, d'une part, et puis ensuite c'était des études gratuites. J'habitais chez mes parents quand j'ai présenté le concours d'école normale, puis ensuite on est interne à l'école
D'accord.
normale. Hein. Et mes parents ont déménagé à ce moment-là, ils ont habité un peu plus haut, mais c'était pas très loin. On restait, si vous voulez, en gros dans le même quartier, c'était pas à l'opposé de la ville. Hein.
Mmh,
voilà.
D'accord.
C'était dans le centre, c'était dans la ville.
Ok, et l'école normale c'était mixte ?
Non, il y avait 2 écoles normales. Il y en avait une de garçons dans un endroit et celle-là qui était de filles.
D'accord.
Mais moi, j'étais intéressée par la maternelle parce que je voulais qu'il y ait de l'art, du dessin, du chant. J'aimais tout ce qui était côté artistique. Donc, je voulais à tout prix. Puis, j'avais dans les stages qu'on avait faits, j'avais vraiment préféré la maternelle. Et je n'ai eu que des maternelles après,
D'accord.
jusqu'à ma retraite. Ça, je pense que être instite, ça m'a beaucoup plu. Mais ce n'est pas le fait d'être allé à Paris, c'est surtout le fait que j'aurais été vraiment dans le dessin. J'aurais pu approcher le milieu de la mode parce que j'aimais tout ce qui était mode, tout ce qui était couture, tout ce qui était voilà. Ça, je pense que ça m'aurait beaucoup plu. Hein. Mais vu que le métier que j'ai exercé me plaisait, bon, je tirais un trait dessus. C'est pas. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais... Puis j'aurais certainement eu une vie très différente de ce que j'ai eu ici. Je me suis trouvé faire, après avoir fait un petit peu d'école maternelle à un endroit, à un autre, j'ai obtenu un poste de direction dans une maternelle. J'y étais pendant 23 ans directrice et j'habitais. On habitait le premier étage, ce qui faisait qu'en habitant à l'étage... On n'a pas la vue des fenêtres d'école, vous voyez, quand on habite en bas, on est toute la journée dans son école. Là, j'habitais à l'étage, et l'école était dans un parc. Donc, on avait la vue sur tout le parc, ce qui était épatant. Et alors, le matin, mon mari partait courir avec son chien, les filles s'amusaient, c'était agréable. Hein. Et puis, même avec les élèves, on pouvait aller dans le parc, on pouvait faire des choses, c'était bien. Donc, j'ai été 23 ans là. Et quand on a quitté, donc, quand j'ai pris ma retraite, parce que je l'ai prise après mon mari, on est allé habiter à la campagne, on avait acheté une longère qui était en très piteux état, et qu'on a fait arranger, etc. Bon, tout a été... Mais ça n'en finissait pas, parce que c'était très, très très grand, il y avait une étable immense, on aurait pu faire un restaurant pour 40 couverts, mais c'était resté sous forme d'étapes où étaient entreposées tout un tas de choses, hein. Et puis il y avait un grand terrain, il y avait 6000 mètres de terrain, ce qui fait qu'on habitait là-bas, c'était bien, mais quand on sort de sa retraite, on est encore jeune, hein, alors on prenait la voiture aussitôt qu'on avait besoin de quelque chose.
Comment vous avez rencontré votre mari, du coup ?
Alors j'ai rencontré mon mari, si vous voulez, je l'ai rencontré 2 fois. Bon.
Mieux vaut 2 fois qu'une.
Voilà. La première fois, c'est que, bon, bah, comme toutes les... quand on avait des dimanches, on était libre, on venait chez nos parents, et puis on allait danser l'après-midi, c'était l'occupation des jeunes. Hein. Moi, j'ai toujours aimé regarder danser les gens, mais j'ai jamais aimé danser. Mais étant plus jeune, j'aimais un peu danser. J'avais horreur de la valse, parce qu'on tournait à l'envers, et moi, ça, je m'en mêlais les pieds. Bon, ben, disons que je dansais, mais... À l'époque, je ne sais pas si ça se fait toujours, on faisait toujours 3 danses consécutives. Ça se fait toujours, ça ?
Non.
Bon, alors par exemple, on avait un tango, c'était suivi de 2 tangos. S'il y avait une valse, c'était suivi. Alors en général, le cavalier que vous aviez assurait les trois danses. Alors je me souviens que j'avais dû venir avec des camarades d'école normale de Vierzon. Et on était allé danser dans un dancing de Vierzon où j'ai connu mon mari. On avait dansé, etc. Mais... ça n'a pas duré, si vous voulez, ça a été un flirt, et puis ça s'est passé comme ça. Et puis ensuite, quand on a eu fini l'école normale, tous les ans, il y avait un bal à l'école normale, qui se passait dans les sous-sols et dans les caves de l'école normale. Il y avait un orchestre, il y avait tout ça, bon. Il y avait toujours au bal d'école normale les garçons, les vierzards, les gazards, les élèves instites, garçons, tous ceux qui venaient danser là. Alors là, j'ai retrouvé donc mon mari, enfin, j'ai retrouvé ce jeune homme, et puis on s'est fréquenté. Voilà, et puis j'ai fréquenté mon mari après ce bal-là, et puis on s'est marié l'année d'après.
D'accord. Et ça a été le coup de foudre ?
Je peux pas dire ça. Non, c'était... voilà. Et je pense que c'était réciproque, hein, parce qu'on s'était déjà vu une première fois, ça n'a pas été pareil. Mmh. Enfin bon, c'était... voilà.
Et vous étiez amoureux après ?
Oui, évidemment. Mais enfin, disons que on peut pas tout dire. Hein.
Et donc, vous êtes mariée au bout d'un an après.
Voilà. Et j'ai eu ma première fille un an après.
D'accord.
Voilà. Et on habitait. Quand je suis donc. Je finissais ma première année d'enseignement à Saint-Coin, en maternelle. Donc, comme on s'est mariés, j'ai demandé un poste à Vierzon. C'est là que j'ai eu cette classe couloir dont je vous parlais. Et on habitait chez ma belle-mère, qui avait une grande maison. Et on habitait chez elle. Donc, à ce moment-là, je travaillais loin. Je faisais tout mon chemin à pied. Ah oui, j'avais bien... pas loin de 2 km à faire, je les faisais à pied. Et puis mon mari travaillait à la mairie, puisqu'il était à ce moment-là dessinateur industriel. Il a un peu changé de titre au fur et à mesure qu'il est resté là-bas.
Et du coup, vous êtes mariée à quel âge ?
Alors, je me suis mariée en 56, j'avais donc 22 ans.
Ah oui, c'est...
Bah, à l'époque, on se mariait jeune. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mes collègues qui se sont mariés dans ces mêmes eaux en sortant d'école normale, 22 ans. Et puis, j'ai eu Corinne à 23.
Et vous vouliez avoir des enfants ?
Oui, ça me plaisait bien. Oui, oui. Mais je ne voulais pas en avoir 6. Hein.
Ouais.
Ça, j'en aurais pas. J'aurais pu en avoir plus, d'ailleurs. Mais...
Comment vous avez fait pour avoir que 2 enfants ?
La pilule n'existait pas à notre temps. Ça s'est trouvé comme ça. J'ai eu 2 enfants. Puis après, j'ai à nouveau. Mais j'ai. Alors, il y a des gens qui disaient qu'ils partaient en Suisse. Bon, parce qu'il paraît que là-bas, ça se pratiquait moyennant une forte somme d'argent. Enfin, moi, je n'ai pas pratiqué en Suisse. Ça m'a quand même coûté une somme d'argent. On paye même fort cher. Ben oui, parce que ceux qui font ça prennent des risques. Hein. Quand c'est un médecin ou une infirmière, c'était une infirmière, mais quand c'est des gens qui pratiquent comme ça et puis qui veulent pas d'ennui, parce qu'il y a des femmes qui ont fait des avortements et qui se sont retrouvées en prison, hein, parce que c'était... Moi, j'avais déjà donc mes 2 filles et j'avais pas envie d'un 3e enfant, pour diverses raisons d'ailleurs, hein. Mais je lui ai dit que je ne voulais pas garder. Alors non, là, il a été d'accord. Bon. Et puis la fois suivante, il n'était plus d'accord. Il m'a dit, non, je voudrais bien... J'aurais tant aimé avoir un garçon, etc. Alors, c'était fini.
Vous avez fait 2 IVG, du coup ?
Oui.
Et chez la même personne, à chaque fois ?
Chez la même personne.
Et à chaque fois, ça s'est bien passé ?
La deuxième fois, ça ne s'est pas bien passé. C'est, comment dire, j'avais des douleurs dans le ventre épouvantables. Alors je suis allé voir un médecin qui m'a dit, il faut que vous rentriez à l'hôpital et qu'on vous fasse un curetage. Ça s'appelait comme ça. Hein. Puis après c'est fini. Mais enfin disons que c'est quelque chose de désagréable. Hein. Bah oui, la personne, j'étais allongé sur la table, il y avait des draps. Enfin c'était une infirmière quand même. Enfin je sais que ça m'a fait mal. Oui, je sais que j'en ai gardé un très mauvais souvenir. Surtout qu'en plus, ça, je ne vous dirai pas le nom de la ville, mais c'était rue de l'Avenir. Ce n'était pas le nom de la rue qui convenait. Et je me souviens que, une fois que c'est passé, on perd du sang en quantité industrielle. Hein. Mmh. Oui, c'est pas des moments agréables, mais enfin bon...
Parce que là, si votre mari il vous dit la deuxième fois un non, c'est hors de question ? Vous l'écoutez pas et vous faites ce que vous voulez.
Oui, j'ai pas écouté. D'ailleurs, il avait même fait venir un prêtre pour lui dire que une cause, pour dire que c'était pas bien, que un troisième enfant c'était pas le bout du monde et tout. Évidemment, l'homme a parlé comme il devait parler. Mais moi, j'avais décidé que c'était non, que c'était non. Disons que quand je suis monté pour aller me faire pour faire le DVG, il n'était pas content, quoi. Donc il m'a conduit, il m'a même conduit et il m'a laissé un moment parce qu'il pensait que ça allait durer, enfin disons une heure. Hein. En fait, ça n'a pas duré une heure. Puis pendant ce temps-là, il était parti se promener. Puis moi, je l'attendais au coin de la rue. Et puis, je ne savais pas comment arrêter l'hémorragie. Hein. J'étais très embêté. Alors, je suis rentré dans le premier bar que j'ai vu. J'ai dû user sans doute tout le rouleau de papier toilette. Donc, c'était un sale moment. Hein. J'avais une amie, vraiment une amie, et qui, c'est elle d'ailleurs qui m'avait fourni cette adresse, qui m'avait dit non, mais puisque... Elle connaissait cette adresse parce que cette amie, elle avait une petite usine très importante où il y avait beaucoup d'ouvrières et il y en avait qui avaient dû se faire faire des IVG. Donc je pense que c'est comme ça qu'elle avait cette adresse. Ça avait supposé que cette femme, elle a été soupçonnée de faire des choses comme ça. Elle aurait pu être écoutée au téléphone ou n'importe. En fait, je sais qu'elle m'avait laissé un espèce de tuyau qui permettait donc au sang de s'écouler. Puis elle m'avait dit, vous n'oubliez pas de me le renvoyer parce que j'en ai besoin, probablement. Alors... Une chose très amusante, j'avais hérité de par ma belle-mère de tout un tas de franges, de dentelles, de cordons, des gants blancs qui montaient jusque-là, d'une vieille mercière qui habitait à un étage au-dessus de chez elle. Alors je m'étais dit, je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit comment renvoyer ce petit tuyau très fin pour que si jamais on ouvrait le colis, ça, on ne le trouve pas. Alors, il y avait des... Vous savez, les hommes autrefois portaient des cols, des faux cols cassés.
Oui.
Alors, dans la pliure du faux col, j'avais installé le petit tuyau, puis j'avais envoyé ça dans une boîte, comme si c'était un cadeau. Pour avoir des idées bêtes.
Cette petite boîte cadeau, je la visualise très bien. Un présent anodin qui en dit long. J'ai une pensée émue pour cette infirmière qui a dû aider tant de femmes. Et une autre pour cette Jacqueline-là qui a attendu son mari sur la route avec le sang qui coulait entre ses jambes. J'aime l'amour de Jacqueline pour l'enfance, sa manière de me parler de son métier et de la passion qu'elle y a mis pendant toutes ces années.
Et vous étiez heureuse, Instit ?
Très. Ça, c'était... Je peux dire que s'il y a une chose que j'ai appréciée chez mes parents, c'est quand ma mère m'a dit est-ce que ça t'irait d'être instit, on va t'envoyer à l'école normale. Enfin, elle me demandait si j'aimais, mais je pense que c'était son idée à elle et que si j'avais pas aimé, ça aurait peut-être été pareil, hein, je sais pas. Mais c'était un métier que j'adorais. Hein. Alors, ça, j'ai toujours aimé. Et puis, de faire ce qu'on voulait, d'avoir des enfants qui sont... moi, je trouvais qu'ils étaient étonnants. Quand j'ai débuté, on n'avait rien. Alors... Même pas de papier. Hein. J'ai débuté avec des enfants qui avaient de 2 à 3 ans, une petite section, avec 65 inscrits. Et heureusement, c'était des gens. Il y avait des gens qui inscrivaient des enfants pour être sûr qu'à un moment donné dans l'année, s'ils avaient besoin de mettre l'enfant à l'école, ils le mettraient, mais ils ne venaient pas toujours. Donc disons qu'il y en avait une cinquantaine. Et j'ai eu la chance cette année-là, c'était la fameuse année de l'hiver 56. Il a gelé à presque moins 20, donc on tournait, on avait 10 élèves. Ça a duré tout le mois de janvier, c'était atroce, il faisait un froid terrible, alors donc ça, c'était avantageux pour ça. Alors on avait peu de matériel, on n'avait pas de papier, il fallait se débrouiller avec les moyens du bord. Alors je faisais mes dessins à la main, ben, s'il fallait faire 40 dessins le même, je me couchais à 1h du matin tous les jours. Hein. Ah oui, c'était vraiment du travail. Hein. C'est plus que de faire l'école avec des enfants de maternelle, c'est autre chose, il y a une ambiance de... On les aime comme si c'était de nos gamins. Hein. Alors, moi vraiment, ça m'a comblé. Hein. Ça, je dois dire que j'étais très heureuse de faire ce métier-là. D'ailleurs, je ne peux pas dire s'il y a des regrets que j'ai eus dans ma vie, ce n'est pas celui-là. C'est vraiment... C'était le bonheur. Hein.
Et avec vos filles à la maison, ça se passait bien ?
Ben, je pense, mais j'essayais quand même d'être un petit peu... Parce que, c'est-à-dire que les enfants, comment vous dire, Elles avaient leur chambre à elles, elles avaient un grand meuble avec des pupitres qui se rabattaient pour travailler, puis elles fermaient la porte. Mmh. Donc, on ne sait pas ce qui se dit entre elles quand les parents sont autrement. Bah, j'ai dû me fâcher certainement quelques fois, sûrement même. Mais il n'y avait pas la sévérité que j'ai pas retrouvée, si vous voulez, dans mon comportement, la sévérité qu'il y avait chez mes parents.
Ouais.
Ah oui, c'était l'obéissance, le travail, même enfant, si vous voulez. Je parle pas d'enfant quand on a 5-6 ans, mais dès que vous atteignez 8-9 ans et qu'on est censé pouvoir faire quelque chose, bon ben on fait. Alors j'avais pas l'impression que j'étais comme tout le monde, si vous voulez. Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui devaient s'amuser. Moi, je sais pas ce que c'est que s'être amusé.
Mmh.
Je sais que quand j'ai eu mon certificat d'études, du côté paternel, j'avais une grand-mère qui était couturière, mais qui était une fine couturière, parce que je me rappelle, elle nous disait « je dois habiller le mariage à un tel », c'est-à-dire la mariée, les demoiselles d'honneur et tout. Elle faisait beaucoup de couture, et chez elle, comme chez nous, les WC, c'était toujours le trou. Hein. Et elle avait un sac qu'elle mettait dans les WC avec tous les morceaux de tissu. Alors moi, je passais un temps fou aux toilettes parce que je sortais tout pour me récupérer du tissu. Alors je lui disais après ce que je peux emporter. Puis alors je m'amusais à coudre des petites choses, j'adorais. Et je me souviens d'ailleurs, à cette époque-là, il avait fallu que je fasse changer mes lunettes parce que je voyais pas bien, j'avais un œil gauche, je ne voyais presque pas. Et je me souviens que comme j'avais dû avoir moi, cette boîte à couture, mon père rentre de travailler, j'étais en train de coudre des petits bouts de tissu. J'ai reçu une gifle, mais alors, à m'éclater la tête. Tu sais bien qu'on te défend de coudre et de faire des choses comme ça, t'as mal aux yeux. Alors j'ai remballé ma petite boîte, puis je me suis dit, il faudra que je me cache. Vous voyez, c'est vous dire là. Alors donc, on avait même des cours de couture à l'école normale. Hein. On avait des cours de couture, oui, alors on apprenait des trucs. On faisait d'ailleurs un grand album que j'ai toujours. Je vous le montrerai, vous diriez, c'est jamais moi qui ai fait ça. On nous apprenait tous les points, point de croix, point de tige, comment faire une brassière de bébé, comment faire un bavoir, enfin, comment monter des manches, enfin, des choses qu'on pouvait apprendre. Mais là, aujourd'hui, je peux pas, j'allais vous dire c'est le bonheur parfait, c'est injuste de dire ça quand on est tout seul, mais si vous voulez, je peux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Il y a des gens qui me disent comment est-ce que vous faites pour pas vous ennuyer, mais je dis mais je ne peux pas, il me manque du temps pour faire ce que j'ai à faire. Et puis mon mari, il était, comment vous dire, il m'a toujours fait souci parce qu'il était comment dire, quand il avait une idée, il la réalisait sans, par exemple, sans m'en parler. Mon mari partait souvent, il me disait, bon ben, je vais en course, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je disais, oui, tu ramènes le pain, nanana, bon. Et puis un jour, donc il est allé faire des courses, et le soir au dîner, il me dit, ah, au fait que je te dise, j'ai mis ta lettre à la poste. Alors je lui dis, ma lettre? Ben, il me dit, oui, tu avais laissé une lettre. On avait un gros poste de radio, j'avais dû mettre la lettre devant le poste de radio. Puis cette lettre était marquée la maison de Valérie. C'était une lettre pour, comme vous avez la redoute ou chose comme ça. Bon. Je lui dis, t'as mis ma lettre à la poste? Mais il me dit, oui, tu t'avais même pas mis de timbre, j'ai dû mettre un timbre. Puis j'ai repensé, j'avais, quand on mettait de l'argent de côté, je mettais dans des enveloppes comme ça pour aller le porter à la caisse d'épargne. Alors il y avait 200 000 francs dedans. J'ai dit, mon Dieu, alors que d'habitude, jamais il aurait emporté une lettre. Pour une fois, qu'il avait la maison de Valérie, je me suis dit, mon Dieu, ça va arriver. Et sans rien dedans, que l'argent. Alors, on avait quand même une chance qu'une cousine à mon mari qui habitait pas très loin travaillait à la poste. Elle et sa sœur travaillaient à la poste. On lui a téléphoné, il était peut-être 8h30 du soir, on était en train de dîner, on lui a téléphoné pour lui dire, voilà, ben, elle a dit, moi, je ne sais pas ce que je peux faire, mais tout ce qui a été mis dans la journée, c'est parti à Bourges. Maintenant, on ne peut pas récupérer. Alors elle me dit, demain matin, dès que j'arrive à la poste, j'appelle l'inspecteur ou je ne sais pas qui à la poste de Bourges pour demander s'il n'y a pas un courrier à la maison de Valérie avec un... Bon. Et ma lettre a été récupérée. J'ai eu de la veine. Mais ça, c'est, vous voyez, c'est des trouilles, comme on dit, que avec mon mari, j'ai connu beaucoup de moments comme ça, des choses qui sont... c'était une bêtise, mais pour une fois, il ne fallait pas le faire.
Et la cohabitation avec votre mari, elle se passait bien ?
Oui, relativement bien. Il y a eu des, comme dans tous les ménages, hein, il y a eu des heures, évidemment. Mais enfin, il y a eu aussi beaucoup de choses que j'ai pas supportées. Enfin, je vous dis, compte tenu que vous enregistrez, je peux pas me permettre.
Oui, vous voulez pas les raconter ?
Non,
il y a pas de
non, non. C'est des choses que personne sait. C'est des choses qui concernent mon mari, qui était pas un homme sérieux, si vous voulez. C'est ouais. Ça. Alors donc, il y a tellement eu de gros problèmes de ce côté-là que c'est un peu pour ça d'ailleurs que je voulais pas d'autres enfants aussi. Je disais, c'est pas mérité. Ouais. Pour moi,
Et vous n'êtes jamais dit, vu qu'il n'est pas sérieux, je vais le quitter ?
J'y ai pensé, mais je ne sais pas pourquoi. À l'époque, enfin, c'était peut-être une époque où on réfléchissait plus, et puis je voyais pas, comment vous dire, je voyais pas l'avenir avec mes filles se passer. Je voyais pas mal les choses se passer, donc non, ça. J'ai parfois dit je vais m'en aller ou non, mais je ne l'ai jamais fait. Non.
Et vous êtes tombée amoureuse d'une autre personne dans votre vie ?
Non.
Vous avez jamais tombé amoureuse de quelqu'un d'autre ?
Non, non. Et puis je n'ai pas cherché. Et puis, comment vous dire, même plus tard, même étant veuve, il y a des gens qui pourraient dire tiens, on va chercher. Non. Je trouve que. La vie que j'ai eue fait que j'ai pas envie d'avoir autre chose maintenant. Je trouve qu'étant seul, là, si j'avais connu peut-être autre chose, peut-être que. Parce que moi, je vois dans ma famille, il y a des gens qui se sont remariés, même pas forcément jeunes, mais non.
Vous aviez jamais fréquenté d'autres garçons avant lui ?
Si. Et j'ai fréquenté un garçon, je ne sais même pas très bien ce qu'il faisait, mais il était militaire à l'époque. Puis je sais que j'avais une répulsion pour le tissu, comment ça s'appelle, là, cette espèce de, on dirait du feutre de tissu dans laquelle ils avaient leur costume. Ils ont sûrement des choses plus comme ça maintenant. C'était râpeux, c'était désagréable. Bon. Et puis j'ai fréquenté un étudiant en médecine, qui était très laid d'ailleurs, c'est sa laideur qui m'a fait... Il avait une petite deux chevaux qui pétardait, pas une deux chevaux, une quatre chevaux qui pétardait.
Et ça veut dire quoi fréquenter ? C'est-à-dire que vous alliez vous balader ?
Oui, on allait se promener, on s'embrassait, c'était le flirt, hein. C'était, ça s'arrêtait là. Hein. Non, ça n'a jamais été plus loin. Hein. Non, non. C'était, vous savez, à l'époque, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de filles qui couchaient à l'époque. Hein. D'abord, il y avait la peur de se trouver enceinte. On avait une camarade qui s'est trouvée enceinte, la pauvre. Elle avait dû coucher une fois avec un garçon, puis s'est tombée. Eh bien, elle a été renvoyée. Hein. Elle a été renvoyée pour l'année où elle attendait l'enfant. Oui, mais qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre qui soit pas secret ? J'ai commencé à fumer à l'école normale. Parce que le soir... Quand les cours étaient finis, qu'on avait dîné, on avait une heure de libre pour être... Il y avait une grande salle qui servait de salle de gym, qui servait de salle de projection, qui servait de tout, enfin une très grande salle. Et on dansait le soir. Alors on avait un électrophone, hein, avec des disques. Et puis on avait également une camarade qui était bonne pianiste. Alors quand elle n'avait pas envie de danser, elle nous faisait de la musique, on dansait tous les soirs pratiquement. Et elle fumait cette fille. Alors évidemment, moi j'achetais pas de cigarette, hein. Puis elle m'offrait une cigarette. Bon, j'ai fumé une cigarette par-ci par-là avec elle. Et puis ensuite, quand on a eu goûté à ça, soit on en est dégoûté et on ne fume plus, soit on apprécie et on continue. Alors j'ai continué. Même quand j'étais à Saint-Coin ma première année, je fumais des gauloises à l'époque. C'était le 21 mars, il était dans le jardin avec quelqu'un qui était en train de nous étêter. On avait un grand février qu'il avait donc fait étêter. Il est rentré en me disant « faut que j'aille à l'hôpital, ça va pas ». Il était très très mal. Alors moi j'ai laissé les gens, j'ai dit « écoutez, je m'en vais ». Je l'ai conduit à l'hôpital. C'était un samedi matin, je me souviens très bien. Je voulais aller sur le marché, puis j'avais dit « j'irai le voir l'après-midi ». je lui téléphone je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il n'arrivait pas à me parler, c'était vraiment comme haché, puis sans, je ne comprenais pas. Et l'après-midi, sur le coup de 16h, le médecin de l'hôpital m'appelle. En général, c'est nous qui appelons les médecins. Et quand c'est le médecin qui vous appelle, c'est jamais bon signe. Alors il nous a reçus en bas, il y avait les urgences. Il me dit, asseyez-vous. Bon. Il dit, on a fait des radios de votre mari, alors il me les accroche. Il me dit, voyez-vous, il est mangé par un cancer des os, il est au dernier degré, je lui donne quelques semaines à vivre. Donc je me disais, bon, maintenant qu'il a la... Puis après, il a commencé à souffrir de plus en plus, alors ça a été la morphine, ça a été les trucs qu'on lui mettait partout, il ne mangeait plus. Et puis un jour, il m'a dit, tu vois, je suis comme tonton Intel, on est obligé de me nourrir avec une petite cuillère. Alors c'est là qu'il a dit au médecin... J'ai une saloperie. C'est comme ça qu'il me l'a dit. Hein. J'ai une saloperie, médecin. Alors le médecin a dit oui, mais je peux vous soulager, mais je ne vous guérirai pas. Donc il a compris que... Mais à moi, il m'a jamais dit, je sais maintenant que j'irai pas loin. J'aurais tellement aimé qu'ils me disent, bon ben voilà, parce que je me retrouvais seul dans une grande maison, pas terminée. Alors, je pensais qu'il aurait pu me dire, bon ben voilà, tu sais, ne t'inquiète pas, tu fais ce que tu veux, tu vends la maison ou n'importe. Enfin, me parler. Il n'a parlé qu'avec mes filles, avec Laurence et Corinne. Mais à moi, il ne m'a jamais rien dit. Jamais dit qu'il se sentait perdu, que... Ben évidemment, après, il était dans une espèce de forme de coma, donc là, il ne parlait plus. Hein. Mais pendant tout le temps où il était encore... où il sentait que c'était très très grave... et que ça allait être la fin pour lui, il aurait pu me dire des choses, mais non. Il est donc décédé début mai. Oh, ça serait bien Laurence. C'est Laurence. Allô, ma chérie. Oui, je suis avec Héloïse. J'ai eu une bonne vie. Voilà, disons, c'est-à-dire que déjà, quand on a un salaire qui tombe tous les mois, hein, puis qu'on travaille à deux, bon ben, on a beau dire que l'argent fait pas le bonheur, mais quand on a ce qu'il faut pour acheter, je sais pas, sa chemise, sa saucisse et habiller ses enfants, ben, puis qu'on a tout ce qu'il faut, c'est quand même déjà une bonne chose. Hein. Ma vie.
Oui, votre vie est très intéressante.
Oui, et puis je vous ai pas tout raconté, parce qu'il y a des choses qui sont... plus impensable que vous n'imaginez, mais que je peux pas dire. Non.
Et que vous pensez que ces choses-là, vous les direz à personne jamais?
Non. À personne jamais, non.
D'accord.
Non, non.
Vous les avez jamais racontées, même à vos amis?
Jamais.
Nous nous sommes longtemps demandé ce qu'elle n'avait pas voulu dire. Puis en travaillant l'enregistrement, nous avons compris qu'elle en avait dit beaucoup, entre les mots, entre les phrases. Avec sa voix de roqueuse, ses cigarettes à la bouche, ses ongles impeccables, son jardin fleuri et son thé vert, Jacqueline nous a fait voyager dans une France qu'on ne connaissait pas. Elle nous a rappelé que la vie n'est pas toujours comme on le souhaite, mais que l'on peut quand même trouver le bonheur.
Tout ce qu'on apprend, même si c'est à contre-cœur, ça rend souvent service par la suite. Hein.
Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marine Debois et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout allez-y. Trouvez-nous sur les réseaux @mamiepodcast et par mail bonjour@mamiedanslesorties.co. À bientôt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.